Depuis l'Europe, présentation Anissa El Jabri, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. L'Union européenne en plein bouleversement politique. Les gouvernements se succèdent au sud et ne se ressemblent pas, alors qu'en Italie on voit un attelage populiste. En Espagne, au contraire, ce sont les socialistes qui l'ont emporté à la faveur d'une motion de censure contre le gouvernement Rajoy. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'être en duplex de Madrid avec le tout nouveau ministre des Affaires étrangères, Josep Borrell, bonjour.
Bonjour Josep Borrell, vous avez été le premier appelé au gouvernement par Pedro Sanchez, un retour inattendu. Vos dernières responsabilités ministérielles, c'était il y a plus de 20 ans, fils de boulanger adhérent au Parti Socialiste sous le franquisme. Vous avez été secrétaire d'État aux Finances, ministre des Travaux Publics sous Felipe González, représentant aussi du Parlement espagnol à la Convention européenne en 2002. Vous avez surtout été président du Parlement européen de 2004 à 2007, un président socialiste sous une commission de droite, la commission Barroso. Les arcanes des débats européens n'ont pas de secret pour vous.
D'ailleurs, on commence par une thématique très européenne, un bras de fer en Méditerranée autour de l'accueil de l'Aquarius, dont les Italiens ne veulent pas, ce bateau de 629 migrants. Vous allez l'accueillir à Valence. Pourquoi ?
Parce qu'il fallait bien que quelqu'un les fasse, non ? On ne va pas laisser ces gens comme les radeaux de la Méduse, c'est baladé dans la Méditerranée. Et l'Espagne est loin d'avoir fait ce qu'il fallait du point de vue du nombre de réfugiés qu'elle s'était engagée à accueillir dans les cadres des accords européens, dont nous avions de la marche. Et le président du gouvernement espagnol, je pense que lui, personnellement, a voulu mettre sur la table du Conseil européen le problème de la migration que l'Europe ne peut pas regarder de face, et on ne peut pas laisser l'Italie aujourd'hui, hier la Grèce, demain peut-être l'Espagne ou la France toute seule devant un problème qui est un problème commun de toute l'Europe.
Mais Josep Borrell, vous ne craignez pas, vous, en Espagne, comme ça a été le cas, par exemple, en Allemagne, à la fois un appel d'air des migrants, mais aussi une montée de l'extrême droite?
En Espagne, nous, heureusement pour nous, on n'a pas un problème d'extrême droite. Heureusement pour nous. Et en ce qui fait l'appel, vous savez, l'appel, il est déjà là. Je viens du Sénégal, où j'ai passé quelques jours dans une mission d'étude sur la migration. Et je vous assure que l'Europe a un attrait magnétique, une force d'attraction magnétique sur les populations africaines. C'est pas la peine d'en ajouter. L'appel est structurel et permanent.
Alors justement, est-ce que vous avez l'impression quand même que ce n'est pas Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien qui est le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite, qui s'est payé aussi un coup de pub en contraignant les Européens à agir, à réagir, à prendre en charge ces migrants?
Les Européens, non, parce que la réponse n'a pas été européenne. La réponse, excusez-moi, elle a été pure et simplement espagnole. De toute façon, ce que M. Salvini a fait, ça ne devait pas être une surprise pour personne, parce que c'était son programme électoral, il l'a dit très clairement, les gens ont voté pour lui, faut pas s'étonner. On peut ne pas être d'accord, mais quand même, ça ne devait pas être une surprise. Et la réponse, je vous dis, malheureusement, n'a pas été européenne, elle a été tout simplement espagnole, et l'Espagne, ce qu'elle cherche avec ça, c'est précisément d'obliger l'Europe à faire, une fois pour toutes, une politique commune devant un problème commun.
La réponse a été espagnole, vous dites. D'ailleurs, la France, justement, n'a pas fait le même geste que vous, alors que c'est pour être plus proche, qu'elle prétend même avoir fait toute sa part. Est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas un peu déçu, tout de même, par votre voisin?
Écoutez, je pense que la solution au problème, c'est bagarrer entre nous, c'est jeter les responsabilités de l'un vis-à-vis de l'autre. Le gouvernement espagnol a voulu faire un geste politique. C'est évident que recueillir des gens qui sont perdus dans la mer et les amener à un port sur 1500 kilomètres plus loin, c'est pas une solution qui puisse être considérée une solution permanente et stable. Je vous dis, c'est un coup d'éclat, c'est une façon de, je dirais pas mettre un coup de poing sur la table, mais de dire, écoutez, on a un problème, il faut que quelqu'un fasse quelque chose tout de suite, et maintenant, les Italiens nous ont aidés aussi à répatrier, à amener ces gens vers l'Espagne, parce que les bateaux tout seuls ne pouvaient pas faire le voyage. Mais c'est pas le moment de se bagarrer entre nous, dire, ah, toi, tu n'as pas fait, toi, tu as fait de plus ou de moins, mais de travailler ensemble pour trouver une solution.
Mais on est en plein dans une grosse bataille, précisément, sur le règlement de Dublin, qui oblige finalement le pays, le premier pays d'arrivée, à traiter les demandes d'asile, ce qui pose un problème, évidemment, à l'Italie et à la Grèce. On voit bien que, finalement, les Européens s'écharpent. Vous-même, vous le disiez, vous n'avez pas pris toute votre part, un sixième seulement du système de relocalisation par quota. Alors, est-ce qu'il y a une solution qui marche ?
Et pour l'instant, il n'y en a pas. Et il y a très longtemps qu'on en parle. Mais c'est évident que le règlement Dublin, tel qu'il est, il n'est pas adapté à la situation actuelle. Il n'est pas adapté à des flux de gens qui sont très nombreux et très localisés dans l'espace. Et puis, vous savez, pour avoir pour qu'on vous concède l'asile, ça prend des années. Et une fois que l'asile est rejeté, renvoyer les gens, ça prend encore des années. Alors, le nombre de personnes qui sont dans une situation illégale ou transitoire, une sorte de limbo juridique, augmente. Il faut comprendre l'Italie. Il faut comprendre que les Italiens se sont sentis tout seuls devant une vague migratoire comme la Grèce avant-hier. Mais j'insiste, qui vous assure que demain ne sera pas l'Espagne, ce sera un autre pays? Si on n'est pas capable de traiter d'une façon commune des frontières qui sont communes, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est le système Schengen qui va s'écrouler. C'est le système de l'ouverture des frontières intérieures. On ne peut pas ne pas avoir de frontières entre nous si la frontière avec le reste du monde n'est pas traitée comme une frontière européenne.
Alors circule par exemple cette idée d'avoir des camps de réfugiés aux frontières de l'UE dans les Balkans. Ça vient de ce nouvel axe anti-migrant des ministres de l'Intérieur d'Autriche, d'Allemagne et d'Italie. Est-ce que c'est une bonne piste pour vous ?
Il n'y a pas peut-être la bonne réponse. Il n'y a pas la solution qui n'a pas des inconvénients. Il faut savoir qu'on est devant un problème structurel qui ne va pas s'arranger, c'est pas une conjoncture, c'est pas un problème de week-end, c'est un problème qui a une tendance lourde à cause de la différence démographique entre l'Europe et l'Afrique, et démographique et économique. On va pas trouver une solution magique pour le lendemain, toutes les solutions auront des inconvénients. Il faut surtout essayer d'éviter que les gens meurent, soit dans la mer, soit dans les sables. Parce que vous savez, on les voit pas, on les voit moins, mais il y a beaucoup de gens qui meurent aussi en essayant de traverser le Sahara. Seulement, on ne le compte pas. Mais il y en a beaucoup. Alors, il faut essayer de trouver une façon de canaliser ce flux. Trouver des camps d'accueil, des camps où on puisse éviter que les gens se jettent à la mer en mettant en risque sa vie. Si on le fait dans des conditions dignes, pourquoi pas? C'est une solution à explorer.
L'ancien chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy a été coulé par un scandale de corruption renversé par le Parlement le 1er juin dernier, après plus de 6 ans de pouvoir, remplacé dans la foulée par Pedro Sanchez, le patron des socialistes. Donc, le nouveau Premier ministre a dévoilé le 6 juin son équipe pour gouverner, une équipe entièrement nouvelle pour ressusciter aussi le Parti socialiste avant les prochaines élections, comme nous l'explique tout de suite Valériane Gauthier.
L'un après l'autre, dans un grand salon du palais de la Zarzuela au nord-ouest de Madrid, les ministres de Pedro Sanchez prêtent serment devant le roi Felipe VI. 11 femmes et 6 hommes, le nouveau gouvernement est le plus féminin que l'Espagne ait jamais connu. Une volonté de répondre aux manifestations massives pour l'égalité qui ont secoué le pays en mars.
L'Espagne a changé le 8 mars. Il y a eu un avant et un après dans notre pays avec les mobilisations féministes. Et le nouveau gouvernement est un reflet fidèle de ce mouvement.
Économie, finance, défense, justice, transition écologique, politique territoriale, éducation, industrie, travail, santé et égalité. La longue liste des portefeuilles confiés à des femmes inclut la plupart des ministères régaliens. Habile dosage de personnalité respectée, cet exécutif a volontairement un caractère pro-européen marqué. L'ancien président du Parlement européen, Josep Borrell, sera ainsi aux commandes du ministère des Affaires étrangères.
L'Europe est notre nouvelle patrie. L'espace dans lequel nous devons nous renforcer afin d'apporter des réponses efficaces aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays.
Il n'y a aucun représentant de Podemos dans ce gouvernement. Le parti de la gauche radicale a pourtant soutenu la motion de censure contre Mariano Rajoy. Le gouvernement de Pedro Sanchez reste minoritaire avec seulement 84 députés sur 350. Il devra réussir à gouverner avec l'appui de moins d'un quart du Parlement.
Josep Borrell, mais vous êtes vraiment en minorité, hein, en vérité, en tant qu'homme, si je puis me permettre. C'est de l'affichage, cette féminisation, ou c'était absolument nécessaire en Espagne ?
Oui, c'est à nouveau un signal. La politique, parfois, est faite des symboles, des signaux, des choses qui frappent un peu. Et le Premier ministre espagnol, le président du gouvernement, a voulu en envoyer un très clair. C'est vrai que nous sommes en minorité. C'est vrai aussi que nous sommes le résultat d'une motion de censure qui est prévue dans la Constitution. D'ailleurs, la Constitution espagnole a prouvé qu'elle était capable de faire face à des circonstances difficiles. Elle était capable de voir comment on ne pouvait pas former un gouvernement et on a été obligé à faire à nouveau des élections à la fin de l'année dernière. On a appliqué l'article 155 pour faire face à la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne et une motion de censure qui a été présentée et approuvée par une majorité du Parlement, ce qui n'avait jamais s'était jamais passé. Alors oui, nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, mais pour l'instant, nous sommes dans la normalité.
En tout cas, vous venez de perdre un homme, hein, le ministre de la Culture, Maxime Huerta. Il a dû démissionner, c'était ce mercredi, une semaine à peine après sa nomination, suite à des déboires avec le fisc. C'était un coup dur pour vous ?
Ouais, évidemment, c'est pas quelque chose d'agréable, mais je pense que ça n'a pas marqué la dynamique du gouvernement.
Alors, vous pensez tenir combien de temps avec un gouvernement sans majorité ? On l'a compris, hein, vous allez réussir à tenir. Et puis, vous voulez d'ailleurs tenir ou les prochaines élections, c'est pour quand exactement ?
Mais normalement, la législature a encore 2 ans devant nous. En Espagne, c'est le président du gouvernement qui a la capacité, et lui tout seul, de décider les moments où il pense qu'il faut appeler à nouveau aux citoyens aux urnes. Donc c'est à lui de décider ça. Moi, j'ai aucune idée de quand et comment il va le faire, mais écoutez, on est dans le ministère depuis 48 heures. Laissez-nous travailler un peu avant de commencer à penser quand est-ce qu'on va partir.
Alors justement, à propos des gros dossiers, hein, qui sont sur la table, vous êtes catalan, votre nomination, elle a été, c'est le moins qu'on puisse dire, mal vécue par les indépendantistes, ils connaissent votre combat anti-indépendantiste. Votre gouvernement, quelques jours, a déjà levé les mesures de contrôle financier sur la Catalogne, veut modifier la Constitution. Vous pensez pouvoir régler cette crise institutionnelle majeure ?
Ben, ça va pas, c'est comme la migration, non? On va pas le faire du jour au lendemain. C'est un problème structurel, ça va prendre longtemps. Mais ce qui est important, c'est que les choses se passent dans les cadres de la loi, dans les cadres de la Constitution et des lois. Ce gouvernement va surtout exiger un respect absolu à la légalité constitutionnelle espagnole. Et dans ces cadres, on peut trouver des solutions qui, parfois, ne demandent pas des gros changements légaux, mais qui sont des politiques concrètes qu'on applique sur le terrain. Je suis absolument conscient de la difficulté de résoudre un problème qu'on a laissé pendant trop longtemps se développer. Et le gouvernement va agir, je vous dis, avec la meilleure volonté de dialogue, mais aussi avec la meilleure volonté de faire respecter la loi. Moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, ma tâche sera de défendre l'image de l'Espagne, qui a été très abîmée par la propagande indépendantiste, en présentant l'Espagne comme un pays presque comme si Franco était encore vivant, plus que Franco, Philippe II, non, la légende noire est de retour. L'Espagne est un pays démocratique. L'Espagne est un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Vous voyez, sinon, la sentence du juge qui a provoqué que le gouvernement tombe, si les juges n'étaient pas indépendants, cette sentence n'aurait jamais eu lieu. L'Espagne, c'est un pays où on respecte les droits humains. Et il y a des gens qui sont en prison préventive par décision de juges, pas du gouvernement. Et ma tâche, entre autres, ça sera d'expliquer au monde que l'Espagne d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Espagne répressive du franquisme, comme l'indépendantisme catalan s'est appliqué avec un certain succès.
Vous donnez Mariano Rajoy n'est responsable de rien dans la perpétuation de cette crise.
La gestion de la crise n'a pas été un succès, c'est la moindre chose qu'on puisse dire.
Alors, parlons un tout petit peu de guerre commerciale avec les États-Unis, parce qu'elle a déjà commencé en fait chez vous en Espagne, ça ne se sait pas forcément, sur la question des olives de table. L'administration Trump estime que vos olives sont vendues aux États-Unis un quart moins cher et devraient faire l'objet de droits de douane anti-dumping. La Commission européenne va réagir, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ce président américain exactement ?
On va mettre sur la table, comme tous les Européens, la grande préoccupation que nous avons pour cette sorte de mesures commerciales qui, dans le cas de l'Espagne, touche par exemple le secteur de l'olive. On peut penser que c'est un problème mineur, mais c'est pas un problème mineur pour nous. Il y a quelques milliers de travailleurs agricoles dans le sud de l'Espagne qui peuvent perdre son travail à cause de ces mesures protectionnistes américaines. Et on va essayer de leur faire voir que ça mène nulle part, parce qu'il y aura il va y avoir des réponses de notre part, et on va entrer dans une escalade de combat commercial qui va créer une crise économique dans certains secteurs, en particulier, malheureusement, celui de l'olive en Espagne. Et que ça va empêcher le progrès d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Espérons que, en mettant sur la table les raisons, on pourra faire que ces mesures, on les change.
Pour terminer, face à la montée des populismes, qu'est-ce que vous pensez de ces projets de relance de l'Europe d'Emmanuel Macron ? Alors, grand projet pour la zone euro, grand projet de consultation citoyenne, avec en essayant de mettre finalement l'Allemagne de son côté, peut-être votre pays aussi. C'est encore d'actualité tout ça ?
Ça devrait être d'actualité. On ne peut pas dire que l'Europe soit en bonne santé. Pour nous, pour les Espagnols, en particulier pour ce gouvernement, l'Europe, c'est le cadre de notre futur. On va bâtir notre futur dans les cadres européens, et pour cela, il faut une Europe qui surmonte ces crises. Quand on voit les résultats des élections en Italie, ou même en France, et vous additionnez les votes de Mme Le Pen et de M. Mélenchon, c'est pas non plus un grand résultat pro-européen. D'un côté et de l'autre, on conteste l'idée de l'Europe pour des raisons différentes. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées bien. Je suis un pro-européen convaincu, mais je ne suis pas un euro-beatus. Je ne suis pas quelqu'un qui dit l'Europe est bien, toujours, n'importe quoi. Il faut voir qu'est-ce que ça ne marche pas pour y trouver une solution et pour éviter qu'une nouvelle crise reproduise à nouveau un sentiment de mécontentement parmi surtout les classes populaires qui ne se sentent pas aujourd'hui identifiées avec les projets européens. Voyez qu'est-ce qu'il se passe en Europe de l'Est, voyez qu'est-ce qu'il se passe avec la montée du populisme, la chute des grands partis qui ont bâti l'Europe de l'après-guerre, les deux grands partis centre-droite, centre-gauche. C'est le paysage politique européen qui est en train de changer tout entier dans tous les pays.
Merci Josep Borrell de votre analyse aujourd'hui.
Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes d'RFI et de France 24.